Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. On parlait de Stephen King la semaine dernière. On reste encore dans l'ambiance cette semaine avec un petit détour chez Frankenstein et autres monstres à l'occasion de la parution d'un hors-série Lire, le magazine littéraire. On en parle dans un instant. Ensuite, nous lirons d'ailleurs la première page de Frankenstein, c'est le roman culte du jour, et nous visiterons la bibliothèque de la chanteuse Emma Domas. Nous irons nous balader dans une librairie, à Vaucresson cette semaine, ça faisait longtemps, chez Anne Burzynski. Et ce grand enfant de Victor Dolland fermera la boutique avec son roman jeunesse, encore des monstres, mais d'abord donc c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Ils sont terrifiants, hideux, méchants souvent, mais bizarrement attachants aussi, en tout cas fascinants. Ce sont les monstres. Lire, magazine littéraire, leur consacre un hors-série. Frankenstein et les grands monstres de la littérature, c'est le titre. Et c'est vrai que Frankenstein tient une place à part dans la galerie. La créature de Frankenstein d'ailleurs. Frankenstein, le docteur Frankenstein, c'est le créateur. On a fini par donner son nom au monstre. Bonjour Alexis Broca.
Bonjour. Voilà.
Vous êtes journaliste littéraire, écrivain. Vous publiez d'ailleurs La honte de la galaxie chez Sarbacane.
Oui.
On en parlera tout à l'heure avec Victor Dolland dans la chronique jeunesse. Vous avez collaboré à ce numéro hors série. Alors j'aime bien moi faire le bon élève et définir d'abord les termes. Qu'est-ce qu'un monstre, Alexis Broca? Bon courage, vous avez 2 heures.
Alors, j'ai 2 heures, je vais donc vous répondre en 20 secondes. Écoutez, le monstre, il y en a de très nombreuses définitions et vous les retrouvez dans leur série. Moi, je m'attache plutôt aux définitions platoniciennes. Le monstre, c'est celui qui est dans la démesure, qui sort de la médiété, c'est-à-dire de l'équilibre indispensable à la constitution de tout être humain, pour aller dans une direction qui le rapproche de l'infini du côté Dieu ou de l'infini du côté démoniaque ou des ténèbres, etc. Celui qui est dans l'excès, et cet excès peut être physique, c'est peut-être un surcroît de chair en quelque sorte, cet excès peut être psychologique, c'est peut-être des désirs absolument déviants, et cet excès peut être aussi dans les capacités. Ce sont des capacités, les capacités monstrueuses de Dracula de perpétuer sa vie à l'infini en buvant le sang des autres, par exemple.
Et qui, en fait, n'est pas dans la norme, c'est ça aussi, le monstre.
Voilà, c'est ça. Très clairement, c'est ce qui n'est pas dans la norme, en effet. D'ailleurs, les écrivains utilisent souvent la figure du monstre pour interroger la norme.
Voilà, on va y revenir. C'est quoi ce qu'on appelle le roman gothique ?
Alors, le roman gothique n'inclut pas forcément des monstres au sens strict du terme. C'est un genre littéraire qui est né en Angleterre, si je me souviens bien, au XVIIIe siècle, avec des auteurs comme Anne Radcliffe, Horace Walpole ou Mathurin, qui a écrit Melmoth sur une figure du diable qui erre sur la terre en cherchant quelqu'un qui voudrait bien signer son pacte. C'est des romans qui se caractérisent par toute une imagerie, toute une iconographie faite de châteaux, de toiles d'araignées, de chauves-souris, d'ombres, de religieux défroqués, d'héroïnes en détresse. C'est tout un ensemble de petits motifs comme ça qui, rassemblés et unis dans un roman, font le côté gothique. Mais le gothique n'est pas toujours fantastique. On a tendance à le confondre.
Frankenstein fait partie du roman gothique.
Oui, il fait partie du roman gothique et en même temps, il appelle vers quelque chose d'autre qui est la science-fiction.
Alors, pourquoi justement ce livre, Frankenstein ou le Prométhée moderne, c'est ça le titre complet, pourquoi est-il encore debout dans l'imaginaire collectif si longtemps après? Qu'y a-t-il de si réussi ou de si pertinent dans ce roman de Mary Shelley?
Alors, Mary Shelley, je pense, c'est difficile de vous répondre très scientifiquement si vous voulez, mais Mary Shelley, il me semble qu'elle a réussi en fait à identifier dans son époque et dans l'imaginaire commun, quelque chose comme un point clé. On est au moment où la science commence à s'intéresser à l'énergie électrique des corps, ce qu'on appelle le galvanisme. C'est en s'intéressant à cela qu'elle imagine en fait qu'on pourrait, en réinjectant de l'électricité dans une...
Parce que le galvanisme, c'est injecter un petit coup d'électricité dans une grenouille morte pour lui redonner vie. Hein,
c'est ça. On s'aperçoit en fait que les muscles ont une activité électrique et donc on s'imagine que par l'électricité, on pourra réveiller l'ensemble des muscles dont nous sommes constitués et donc ressusciter les gens. Voilà. Et en fait, Shelley, elle déploie cette idée dans un roman qui est de décor gothique, mais l'idée, elle est plus moderne, si j'ose dire, que son cadre. C'est-à-dire que d'un côté, alors, par le sous-titre, elle le rattache à la mythologie grecque, le mythe de Prométhée, voleur de feu. Et d'un autre côté, par l'utilisation de termes scientifiques, elle le rattache au contraire à la science de son époque. Et ce qu'elle nous montre, en fait, Marie Shelley, et c'est pour ça que ça dure, elle nous montre en fait le danger d'un créateur, d'un scientifique, qui invente une invention dont il n'est pas maître, qui lui échappe complètement. Et nous vivons une époque Frankenstein, dans le sens où nous entendons sans cesse parler d'intelligence artificielle qui peut-être un jour nous dépasseront, de manipulation génétique dont on ne pourra envisager les conséquences qu'à très long terme. Lorsque nous inventons un hamburger artificiel, nous l'appelons fait à base de végétaux, nous l'appelons le Frankenburger. Lorsque nous faisons grandir un saumon à la génétique modifiée, nous l'appelons le Frankenfish. Tout cela montre bien la présence en fait de cette mythologie de la transgression par la science. Et c'est ça qu'elle voit en fait.
Et c'est ça le sous-titre, le Prométhée moderne. Le mythe de Prométhée,
exactement.
C'est Prométhée qui vole le feu.
Voilà, qui vole le feu de la ruse pour le donner aux humains.
Une forme d'invention très dangereuse finalement qu'on ne maîtrise pas.
C'est vrai, la ruse, bah oui. C'est sûr que les humains sont devenus assez turbulents depuis que Prométhée leur a donné le feu sacré.
Vous nous racontez l'histoire de l'écriture de ce livre, elle est assez jolie.
Oui, alors c'est une histoire.
C'est une légende d'ailleurs ou pas ?
Non, c'est pas une légende. C'est tout à fait vrai. Après, bon, pour y croire, cette légende, il faut remonter un petit peu ce que la personnalité de Marie Shelley. C'est-à-dire que Marie Shelley, c'est la fille, elle est née à la toute fin du 18e, hein, en 1797. Elle est la fille, en fait, de deux libres penseurs très en avance sur leur temps, très progressistes. Et à l'âge de 15-16 ans, elle rencontre, 16 ans, si je me souviens bien, elle rencontre Percy Shelley, qui lui est un aristocrate flamboyant, excentrique, très contesté, mais qui était aussi un poète reconnu. Et Percy Shelley, bon, on va pas dire qu'il l'enlève, parce qu'à mon avis, Marie Shelley avait suffisamment de personnalité pour partir toute seule, mais toujours est-il que voilà, les deux vont partir. Et en fait, l'année suivante, ça se passe en mai 1816, si je me souviens bien, ben le couple Shelley, même s'ils ne sont pas mariés, partent au bord du lac Léman avec notamment Lord Byron, le médecin Polidori. Et là, passent beaucoup de temps à lire, à discuter, notamment des sciences de l'époque et notamment du galvanisme. Et Byron, il pleut beaucoup, Byron va lancer l'idée d'un jeu littéraire. Et le jeu littéraire, ça va être de chercher à écrire l'histoire qui effraiera le plus ses petits camarades. Il faut dire que on est en plein dans l'époque du roman gothique triomphant, donc ils en lisent beaucoup, donc ils ont la cervelle pleine de ténèbres et de chauves-souris. Et ils décident de se lancer dans chacun de leur côté dans l'écriture d'un texte. Alors, Polidori va écrire un texte qui s'appelle Vampire avec un Y.
Qui est une des premières fictions qui met en scène un vampire, d'ailleurs.
Voilà, qui est une. Alors, tout le monde l'a oublié, mais c'est vraiment quelque chose qui pave le chemin vers le Dracula.
Qui a inspiré Bram Stoker.
Voilà, qui a inspiré Bram Stoker. Beaucoup d'inspiration autour de Stoker, mais ça ouvrait la voie. Byron va en tirer une petite histoire qu'il met à la fin de son poème Mazeppa. Et puis, là, cette grande réussite va venir effectivement de cette jeune femme qui a donc 18 ans, Marie Shelley, qui, elle, en fait, réfléchit aux meilleurs moyens de... Au départ, elle ne prétend pas du tout innover en littérature, elle ne prétend pas inventer quelque chose, elle veut juste écrire...
Une petite histoire.
Ouais, l'histoire qui fera le plus peur aux autres. Et puis, elle trouve elle le trouve en écoutant en fait des discussions autour du galvanisme. Elle trouve cette idée et aussi des discussions autour du grand-père de Darwin, Erasmus Darwin, qui visiblement avait tenté des expériences dans ce sens-là. Et là, voilà, elle a l'idée de faire réveiller elle a l'idée de son docteur Victor Frankenstein, qui va réveiller une créature qui est constituée d'un assemblage de morceaux de corps. Ce qui est d'ailleurs étonnant, c'est que certains côtés horrifiques de Frankenstein viennent de réflexions assez prosaïques de Marie Shelley. Elle se dit ça ne doit sans doute pas être possible de greffer bout à bout des morceaux de corps humain de façon très fine. Le corps humain est composé de plein de petits organes très compliqués, donc on va mettre des gros morceaux. Et c'est pour ça que Frankenstein a cette stature absolument colossale, c'est parce qu'il est constitué de gros morceaux. Et elle a cette idée et elle en fait beaucoup plus qu'une petite histoire. Elle va la développer en roman, et voilà.
Restez avec nous, Alexis Broca. On retrouve Frankenstein et la galerie de monstres dans un instant.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Alexis Broca, journaliste magazine Lire, magazine littéraire qui consacre hors série à Frankenstein et aux monstres de la littérature. Alexis Broca, pourquoi vous avez choisi Frankenstein justement comme couverture de Lire, magazine littéraire, et pas Dracula et pas les autres, quoi?
Parce que c'est le bicentenaire de son édition française. Voilà.
Donc en fait, c'est tout. C'est voilà. Pas pour vous le maître, le roi des monstres. C'est pas ça la raison.
Il y a les deux raisons en fait, si vous voulez. Le bicentenaire nous donne une bonne raison d'aller vers un de nos monstres préférés. En gros, c'est ça. Frankenstein, en fait, si vous voulez, il y a une réactivation aujourd'hui de ces figures comme le zombie, le vampire et la créature de Frankenstein, en effet. Le zombie, on le voit dans toutes les fictions post-apocalyptiques. Le vampire, lui, on l'a vu beaucoup dans des fictions adolescentes parlant d'amour et d'émoi, parce qu'il y a tout un rapport entre
l'érotisme
du vampire, etc.
Il y a même un genre littéraire qui s'appelle la bitlit,
tout à fait.
Qui est en fait la littérature de la morsure, si on veut, qui rassemble. Est-ce qu'on n'a pas tué un peu le mythe avec tous les romans qui sont arrivés, les séries et tout ça? Alors, sur c'est... les vampires gentils, les vampires qui peuvent boire du sang synthétique dans True Blood, les vampires entretien avec un vampire, enfin il y en a tellement.
Vous avez raison, il y a eu Dracula, combien de réécritures, hein, c'est infini. Et en même temps, on ne peut pas tuer Dracula. On ne peut pas le tuer parce que en fait, toutes ces déclinaisons, toutes ces réécritures aussi poussives et lourdingues soient-elles.
Il y en a eu
des vraiment des atroces, hein. Mais elles prennent quand même naissance dans le chef-d'œuvre. Et comment dire, cette dimension bitlit, cette littérature à l'eau de rose avec des vampires dedans, elle est ce qu'elle est. Mais dans Dracula, il y a toute une histoire d'amour entre le comte Dracula, enfin une histoire d'amour déviante, hein, entre le comte Dracula et Mina Harker. Et cette dimension romantique, elle est inscrite déjà d'emblée dans le chef-d'œuvre. Et c'est pour ça qu'elle donne en fait à Dracula cet aspect tellement dandy. Cet aspect dandy a été fixé par Bram Stoker avant que Bram Stoker écrive Dracula. Le vampire,
c'est un monstre.
C'est une créature. Voilà, c'est un monstre, une créature rougeaude. Il n'est pas du tout pâle comme un dandy londonien. Il est rouge comme un paysan de l'ancien empire austro-hongrois. Voilà, il est bedonnant, il est gras. Il n'a pas du tout les attributs sexy du.
Mais justement, Dracula. C'est intéressant parce qu'on parle de monstre. On disait avant Dracula, avant Bram Stoker, le vampire c'était un monstre. Mais avec Bram Stoker et Dracula, même si c'est un dandy, ça reste un monstre.
Oui, c'est
donc
un
la
monstre,
figure
oui.
du monstre. Est passé de quelque chose de hideux, de laid, oui. à quelque chose de séduisant.
Et c'est pour ça que le Dracula de Stoker est plus intéressant que ses versions antérieures. Vous savez bien, les personnages littéraires ne sortent jamais grandis d'une ambiguïté. Là, Dracula est en plein dans l'ambiguïté. Il a un tas d'attributs humains, il a des passions humaines, et en même temps, il a toute une collection de pouvoirs monstrueux. Et c'est ça, à mon avis, qui le rend supérieur au loup-garou, dans le sens où il incarne à la fois la monstruosité, le crime et l'élégance. Mmh. Voilà. Loup-garou lui incarne plus une certaine forme de bestialité primale.
On parlait la semaine dernière de Stephen King et de sa recherche du mal dans tous ses romans et dans toutes ses nouvelles.
Il compare à Oiseau Gris dans le dernier.
C'est un peu le cas avec les monstres, en fait. Finalement, c'est toujours le diable et la question du mal. Qu'est-ce qu'il y a de fascinant là-dedans et pourquoi on a envie de ces histoires-là?
Alors, c'est pas toujours la question du mal, en fait, mais c'était autrefois la question du mal, et c'est devenu aujourd'hui, à mon avis, la question de l'étranger. Ce qui nous fascinait quand autrefois on décrivait les monstres, c'était le côté hyper transgressif de la créature. Psychanalyse, on pourrait vraiment parler de retour du refoulé. Hein. Tout ce que la société refoulait de pulsions érotiques, de pulsions de mort, etc., se retrouvait logé dans ces monstres. Ce loup-garou qui est une sorte de créature survirile, ce vampire qui est le séducteur éternel. Et effectivement, ils obéissent tous à un imaginaire chrétien. Vous leur jetez de l'eau bénite, ils n'apprécient pas. Et ils s'en vont. Et à cette époque-là, en effet, le monstre représentait le mal. Ce qui est intéressant avec Frankenstein, c'est qu'elle fait un premier passage sur un monstre qui ne représente plus le mal, mais qui représente les forces inconnues de la nature. En quelque sorte, elle amorce la révolution qu'opéra le grand écrivain d'épouvante Howard Philip Lovecraft lorsqu'il inventera un fantastique qui ne vient plus des créatures de la nuit et des cimetières, mais un fantastique qui vient de l'espace, des gouffres infinis de l'espace, où habitent des créatures qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui sont infiniment puissantes.
Laides.
Laides.
Enfin, ou belles, mais enfin, en tout cas, très, très différentes.
Ah, voilà, dont la vue nous est insupportable au sens propre du terme et qui peut-être nous détruiront un jour par jeu ou par ennui, mais sans intention mauvaise, parce que pour elle, nous ne sommes que des protozoaires. Et en fait, Marie Shelley, en prenant la science comme élément moteur de son roman, elle amorce justement le déplacement de la figure du monstre de représentant du mal à représentant du mystère infini des gouffres spatiaux qui nous effraient. Voilà.
On a parlé de Mary Shelley, de Bram Stoker, de Stephen King. On parle très peu de français, finalement. On pourrait revenir à des classiques avec Victor Hugo et tout ça. Mais aujourd'hui, on a complètement laissé tomber le genre, en fait, en France.
Il se retrouve de temps en temps quand même, mais de manière ludique, dans des, je sais pas, vous lisez les livres d'un de mes camarades qui s'appelle Bernard Quirini, par exemple.
Il y en a, je veux voilà. dire, mais c'est pas dans la. Voilà. On n'a pas créé de monstres de la mythologie moderne. Quoi.
Alors il y en a en science-fiction, mais c'est vrai que si vous voulez. Je pense que déjà nous sommes des cartésiens, donc nous avons un préjugé négatif sur toute littérature fantastique. Nous pensons que c'est pour les enfants, etc. Dans le monde anglo-saxon, les contes oraux, les histoires de fantômes, etc., ont été très vite passés à l'écrit. Et donc il y a eu très vite une tradition littéraire l'écriture fantastique dans le monde anglo-saxon. Ça n'a pas été le cas en France. En France, dans l'encyclopédie, par exemple, l'encyclopédie attaque très violemment un recueil d'un religieux qui s'appelait Dom Calmet, qui avait fait
la dissertation sur les vampires.
Exactement.
Enquête sur les vampires et sur les légendes qui couraient
exactement,
dans l'Europe de l'Est.
Les légendes austro-hongroises de vampires.
Qui a inspiré d'ailleurs Bram Stoker pour son Dracula.
Exactement, tout à fait.
Alors, on dit qu'il n'y a pas de français, mais il y en a quand même eu quelques-uns. Alors, pas aujourd'hui, mais
Maupassant.
Jules Verne. Oui, Maupassant, mais ouais. Jules Verne aussi, qui nous crée des monstres marins, notamment.
Oui, alors après, c'est des monstres scientifiques, dans le sens où je pense que vous faites allusion aux pieuvres géantes de 20 000 lieues sous les mers, bien sûr. Ce sont des monstres dont... Alors, Jules Verne, en fait, à l'époque, si je me souviens bien, on n'avait jamais observé ces pieuvres géantes, mais il y avait des légendes, la fameuse légende du Kraken. Et surtout, on savait que par la pêche à la baleine et par la pêche au cachalot, qu'on retrouvait en fait dans les estomacs de ces cachalots des tronçons de tentacules absolument gigantesques. Et à partir de là, on pouvait postuler la taille de la créature. Et c'est comme ça que c'est sans doute comme ça que Jules Verne a créé ces monstres. Mais ce sont des monstres plutôt scientifiques. Après, il y en a d'autres dans Voyage au centre de la Terre, en effet. Mais là aussi, ce sont des monstres, des créatures préhistoriques. On voit apparaître un géant aussi dans Voyage au centre de la Terre. Mais à l'époque, il y avait encore des gens pour croire que les anciennes races dominidées humaines comptaient des géants.
C'est intéressant ça aussi parce que chez Jules Verne, ce sont des animaux. Dans votre bestiaire du magazine Lire, magazine littéraire, il y a Moby Dick aussi,
oui, c'est
qui
vrai.
Est considéré comme un monstre. Si les animaux étaient monstrueux, comme s'ils avaient quelque chose de méchant aussi. Quoi.
Melville en fait quelque chose de monstrueux. Moby Dick, en fait, elle vient d'un fait réel, hein, d'une histoire de pêche, d'un cachalot qui s'est retourné contre un baleinier et qui a réussi à le couler, le naufrage de l'Essex, si je me souviens bien.
Ils ont fini par se boulotter entre eux, les naufragés.
Oui, c'est ça, tout à fait. Si on va à Nantucket, on trouve effectivement le carnet d'un des mousses qui a survécu à ce naufrage.
Mais justement, c'est là où je veux en venir. Les humains dans cette histoire sont aussi monstrueux que l'animal monstrueux.
Bien sûr. Ce qui est intéressant dans Moby Dick, c'est qu'effectivement, vous avez ce capitaine qui poursuit cette baleine blanche qui lui a dévoré la jambe. Et ce capitaine Ahab est lui-même une figure satanique. Il est entouré de serviteurs qui ressemblent à des démons subsidiaires. Sa résolution dans sa quête en fait une créature mythologique, presque une érinie, une furie, hein, quelque chose qui poursuit ad vitam aeternam son objet. Et finalement, oui, Moby Dick représente son idéal déviant en quelque sorte. Il y a quelque chose de ça. Après, la figure de Moby Dick, c'est assez curieux parce que d'un côté, Melville connaît très bien la chasse à la baleine. Son livre peut se lire comme une encyclopédie de la chasse à la baleine. Et il sait, donc les baleines sont des animaux. À Nantucket, on voit des tombereaux de squelettes. Mais il décide de le relier, et un peu comme Richelet d'ailleurs, il décide de le relier à une mythologie, qui est la mythologie du Léviathan. Et Moby Dick, en fait, est à la fois animal et à la fois monstre biblique, ce qui est assez fort. De la même manière que Frankenstein est à la fois invention, créature de synthèse, et en même temps, il est effectivement figure mythologique. Il est prométhéen.
Mais justement, dans un instant, on écoute la première page de Frankenstein.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
Chose promise, chose due, voici donc la première page de Frankenstein, ou le Prométhée moderne, lu par Philippe Dussault.
Frankenstein ou le Prométhée moderne. Lettre 1 à Mrs. Saville, Angleterre. Saint-Pétersbourg, 11 décembre. Vous serez heureuse d'apprendre que le commencement d'une aventure que vous regardiez avec tant de fâcheux pressentiments s'est déroulé sans aucun désastre. Je suis arrivé ici hier et j'ai pour première tâche d'assurer ma chère sœur que je me porte bien et que j'ai de plus en plus confiance dans le succès de mon entreprise. Je suis déjà bien au nord de Londres et, marchant dans les rues de Pétersbourg, je sens qu'une froide brise septentrionale pique mes joues. Elle me fortifie les nerfs et m'emplit de plaisir. Comprenez-vous ce sentiment ? Cette brise, qui provient des régions vers lesquelles je fais route, me donne un avant-goût de ces climats glacés. Encouragé par ce vent prometteur, mes rêveries gagnent en ferveur et en vivacité. En vain, essayais-je de me persuader que le pôle est le domaine du gel et de la désolation. Il se présente sans relâche à mon imagination comme la région de la beauté et du plaisir. Là-bas, Margaret, on voit le soleil en permanence. Son large disque ne fait qu'effleurer l'horizon et diffuse une perpétuelle splendeur. Là-bas, car si vous me le permettez, ma sœur, j'ai bien l'intention d'accorder quelquefois au précédent navigateur, là-bas, neige et gel sont bannis et, parcourant une mer calme, peut-être serons-nous délicatement poussés vers une contrée surpassant en merveille et en beauté tous les pays découverts à ce jour sur les parties du globe habitées par l'homme. Ces produits et ces caractéristiques sont peut-être sans pareil, à l'instar assurément des phénomènes des corps célestes en ces solitudes inconnues.
Europe 1, 14h-15h, la voix est livre. Nicolas Caro.
C'était la première page de Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley, lu par Philippe Dussault. Alexis Broca, vous êtes toujours avec nous du magazine Lire, magazine littéraire, hors série sur Frankenstein et les monstres. On a déjà beaucoup parlé de Frankenstein, du monstre de Frankenstein. Juste encore un mot, puisque bon, il ne faut pas qu'on divulgue l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais la morale quand même, c'est qu'on n'accepte pas la différence. Le monstre de Frankenstein, il n'est pas méchant par essence.
Non.
Simplement, il est tellement laid, il est tellement monstrueux qu'il voilà. est rejeté. Et
Exactement.
Peut-être que du coup, ça va l'engager dans un chemin qui est mauvais.
Oui, tout à fait. La créature de Frankenstein, ça aussi, c'est une des grandes originalités de Mary Shelley. Elle n'est pas mauvaise par essence. Au début, elle cherche à comprendre, elle cherche à s'éduquer, elle cherche à apprendre. Elle va y arriver d'ailleurs, mais elle va se faire rejeter de la société humaine. Le drame de cette créature, en fait, c'est qu'elle a des pensées humaines. Elle partage notre condition en bien des aspects, mais elle est terriblement seule et nous la rejetons. Et sans tout divulguer, l'idéal de cette créature serait d'avoir un semblable. Ce qui est sûr, c'est que par les réactions de rejet qu'elle provoque chez tout le peuple du roman, chez tous les personnages du roman, elle révèle notre monstruosité. Monstruosité du créateur Victor Frankenstein, qui joue avec la vie, qui se met à rassembler des éléments de chair pour créer cette créature et qui, dès que cette créature ouvre l'œil, s'épouvante. Alors qu'il atteint son but, pourtant, il voulait la ressusciter. Dès qu'elle ouvre l'œil, c'est fini. Il n'est plus son père, il ne veut plus l'être. Et à partir de là, le drame, la tragédie s'enclenche, en effet.
Dans un instant, encore plein d'autres histoires. Vous restez avec nous, Alexis Broca. Nous nous rendons dans la bibliothèque d'une de vos collègues, Emma Domas, la chanteuse qui est aussi chroniqueuse dans
bien.
Le magazine. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La Voix et Livre continue, nouvelle page, on sort un peu du studio à la rencontre d'Emma Domas. Elle est chroniqueuse d'ailleurs pour Lire, le magazine littéraire, mais elle est surtout chanteuse. Elle sort un nouvel album, L'Art des Naufrages, très joli titre. C'est aussi une passionnée de littérature. On la rejoint dans la librairie L'Atelier Neuf à Paris pour parler de ses livres favoris. Domas.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Alors pas chez vous, on est à la librairie L'Atelier Neuf, rue des Martyrs, très jolie librairie.
Tout à fait.
Pourquoi on est là? Parce qu'en fait vous n'habitez pas Paris.
Exactement, je suis provinciale.
Loin,
voilà, il aurait fallu que vous veniez à Villeneuve-les-Avignon, mais vous n'avez
J'aurais
pas eu le temps.
Aimé.
Oui, ça aurait été avec plaisir.
Mais on va se balader dans les livres de la librairie, parce qu'il y en a beaucoup que vous avez retrouvés ici.
Bien sûr.
Juste avant, comment c'est chez vous, les livres, ils sont classés comment? Est-ce qu'il y a un joli meuble? Est-ce que c'est en désordre? Voilà, comment c'est?
Ça dépend si c'est mon côté ou le côté de mon compagnon. On a beaucoup de livres. Voilà, on a beaucoup de livres, effectivement. Et de mon côté, c'est très bien rangé, c'est très classé. Voilà, je trie souvent, effectivement, les livres qui ont fait partie de mes vies anciennes sont dans des cartons. Et puis ceux qui font partie de mes vies actuelles sont bien en évidence, bien rangés sur mon étagère. Et mes enfants n'arrêtent pas de jouer avec. Et moi, ça m'énerve, il faut toujours que je les re-range.
C'est quoi les livres de la vie ancienne?
Oh, les livres de la vie ancienne, c'est les livres qu'on a aimés plus jeunes, les auteurs qu'on a aimés plus jeunes. Je sais que quand j'étais jeune, je dévorais Bernard Werber, que j'ai adoré, notamment sa trilogie des Thanatonautes, À nous les dieux.
Vous ne les gardez pas?
Si, mais ils sont pas loin, mais ils ne sont pas tout à côté. Voilà, ils ne sont pas loin. Il y a eu Amélie Nothomb aussi, j'avais lu tous les Amélie Nothomb quand j'étais adolescente. Voilà. Et puis il y a ceux qui traversent les âges. C'est vrai qu'il y a deux auteurs que j'ai toujours plaisir à lire. C'est Zola et Stefan Zweig que j'avais découvert au lycée et qui ne m'ont pas quitté.
Il y en a plein ici. Pourquoi vous ne mélangez pas les livres avec votre compagnon? C'est trop différent?
Oui, je pense que c'est trop différent, effectivement. Lui, il est... Il est beaucoup sur les œuvres déjà anciennes, très anciennes, plutôt grecques, plutôt mythologiques.
Oui, en grec dans le texte et tout.
Alors, il parle le grec, il lit le grec, mais quand même, il les a traduits, il a des traductions. Mais non, effectivement, alors, et puis lui, pour le coup, la matière n'est pas quelque chose de fondamental pour lui, donc c'est pas grave s'il perd un livre. Oui. Alors que pour moi, c'est un drame, parce que j'ai l'impression que les livres, c'est un peu le contour de ma pensée, en fait.
Une autre édition, ça ne vous ira pas, quoi. Il faut que ce soit celui-là.
Alors, celui-là en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut que le texte qui m'a imprégné ait sa trace dans mon espace de vie.
Alors, si on était à Avignon, on trouverait donc, vous m'avez dit, avant même de commencer, de toute façon, il faut du Zola.
Ah bah oui, c'est obligé. Parce
ils
que
sont
c'est,
là,
c'est
alors on a l'œuvre, on a Germinal, on a Thérèse Raquin, on a Au bonheur des dames, on a Le ventre de Paris, mais vous vouliez Nana qui n'est pas là.
Ouais, on a
peut-être
pas
qu'il est dans l'arrière-boutique, moi, pas quand même le déranger, mais pourquoi Nana?
En fait, déjà j'ai commencé par Thérèse Raquin quand j'étais en première, je crois, et c'est comme ça que je suis rentrée dans Zola. Vous me direz, c'est pas la façon la plus évidente, parce que c'est quand même très... très lourd, très chargé, très habité, un peu glauque aussi. Et effectivement, moi, je me suis régalée avec Zola, déjà, parce que j'adore cette idée de fresque familiale, les Rougon-Macquart. Pour moi, c'était fascinant. Je me disais, comment un seul homme peut écrire comme ça toute une dynastie de personnages? C'est génial. Et puis, je suis tombée un jour sur Nana. Et Nana, c'est le personnage, je trouve, peut-être le plus contemporain de tout ce que j'ai pu lire de Zola, qui est cette... qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui est cette femme fascinante qui va... gravir les sommets comme ça de la hiérarchie sociale jusqu'à devenir une grande star de son temps et puis qui va sombrer, tomber progressivement et qui va finir très 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 mal.
Juste à côté, avant les aides, il y a Boris Vian. Je me suis dit que peut-être, tiens, ouais, Boris Vian, ça vous allait bien aussi.
Eh bien, j'adore Boris Vian en chanson. Moi, je suis une grande fan de Boris Vian en chanson.
Vous en connaissez.
En bouquin. Alors là, comme ça, vous me prenez au dépourvu parce que les paroles sont toujours un petit peu compliquées. Mais
moi, ça, c'est un truc qui me fascine chez les chanteurs, les chanteuses, c'est cette capacité aussi à connaître par cœur des chansons pour toujours, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais alors là, sur Boris Vian, vous me prenez au dépourvu. Carmen Maria Vega, qui a fait un spectacle sur Boris Vian, pourrait peut-être beaucoup mieux répondre à la question que moi.
Mais alors, Boris Vian en chanson, mais pas tellement en roman.
Pas tellement en roman. Non, pas tellement en roman. J'avoue que J'irai cracher sur vos tombes m'a vaccinée de l'écriture de Boris Vian.
Ah bah c'est hardcore.
Voilà, je n'ai pas pu continuer.
Il y a du viol et tout.
Exactement, les incestes et tout ça.
Enfin, il a été interdit d'ailleurs.
J'imagine, et je comprends qu'à l'époque, ça a été totalement choquant, mais il y avait quelque chose de tellement...
Mais l'écume des jours, c'est au contraire la douceur incroyable.
Ouais, je ne l'ai pas lu.
Ah ouais, mais ça, je pense que ça peut vous plaire.
Ok, je prends le conseil.
Z comme Zola, et on est passé de côté littérature étrangère avec le Z comme Zweig. Oui. Pareil, vous m'avez dit ça aussi, c'est indispensable.
Ah oui, pareil, Stefan Zweig, je l'ai aussi découvert au lycée, et depuis, j'arrête pas. Enfin, voilà, là, je suis en train de lire Magellan, justement. Je viens de sortir un album qui s'appelle L'Art des naufrages, et je me disais que c'était peut-être le moment de lire des choses sur le grand navigateur qui a été Magellan. Alors, ce que j'adore chez Zweig, c'est son enthousiasme absolu pour la vie, pour le vivant, pour l'être humain, jusqu'à la candeur, quoi. On a l'impression d'avoir un petit garçon toujours enthousiaste qui est avide de découvrir des choses et de nous les transmettre. Une curiosité, en fait, absolue.
Un enthousiasme partageur, quoi.
Totalement communicatif, absolument. Oui, et puis...
Vous avez tout lu ?
J'ai peut-être pas tout lu, non, ça j'ai pas lu.
Le joueur d'échecs.
Évidemment, Le joueur d'échecs, Lettre d'une inconnue, 24 heures dans la vie d'une femme, Amok, là je suis sur Magellan. J'ai adoré celui sur le Brésil, mince, je me rappelle plus le titre, mais il vous raconte l'histoire du Brésil, et moi qui suis très attachée au Brésil, j'ai appris beaucoup de choses dans le livre de Stefan Zweig, et notamment sur la colonisation de ce pays-là, qui a été très différente des colonisations faites par les Espagnols. Et bref, enfin voilà, Zweig, effectivement, a cette espèce d'enthousiasme communicatif et cet engagement absolu auprès du vivant, qui l'a conduit, comme on le sait, à un destin absolument tragique, mais je comprends ça, dans sa personnalité, qu'il soit allé vraiment au bout de ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait, pour moi, absolument pas admettre que ce monde qu'il aimait tant et que ce vivant qu'il aimait tant et dont il représentait tout l'enthousiasme vire à ce point au cauchemar et à la destruction. Et je pense qu'en se tuant lui-même, il a symbolisé cette destruction du monde du vivant.
Vous parlez très bien des œuvres, mais vous parlez aussi avec beaucoup d'enthousiasme des écrivains. Vous les aimez, les écrivains, j'ai l'impression. Vous allez à leur rencontre parfois dans les salons, des trucs comme ça, ou quand vous les croisez dans les médias ou...
Il se trouve que je ne sais plus qui c'est qui disait ça, j'ai commis une œuvre, j'ai commis un livre il y a quelques années, et que donc j'ai été invitée dans des salons du livre, et qu'à à cette occasion-là, effectivement, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains, et que j'ai aimé absolument être, voilà, les fréquenter et discuter avec eux. Mais après, moi, j'aime... En fait, ce n'est pas les écrivains en particulier, ni les chanteurs. J'aime l'intime. J'aime la connexion intime qui se crée dans une œuvre entre un auditeur ou un lecteur et un artiste. Mmh. Moi, c'est ça qui me touche profondément. Je ne pourrais pas vous dire que j'aime les écrivains, parce qu'il y en a sans doute des très bien et sans doute des moins bien. Je ne suis même pas sûre d'aimer Michel Houellebecq si je le rencontrais. Voilà. Pourtant, j'adore son œuvre. Mais j'aime cette intimité et j'aime effectivement peut-être raisonner avec eux.
Il ne faut pas toujours rencontrer les écrivains qu'on aime,
non,
de toute façon.
Je crois.
Merci beaucoup, Emma Domas.
Bah avec plaisir, merci.
Merci pour cette balade. Et merci beaucoup à la librairie, l'Atelier 9, rue des Martyrs à Paris.
Tout à fait. Merci à eux pour leur accueil et à très bientôt.
À bientôt.
De retour en studio, et je rappelle le titre du dernier album d'Emma Domas, L'Art des naufrages. Alexis Broca, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes journaliste pour Lire, magazine littéraire. Vous êtes journaliste littéraire depuis longtemps. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de rentrer dans une bibliothèque chez quelqu'un ? Qu'est-ce qu'on peut déduire de quelqu'un en regardant sa bibliothèque ?
On peut tout simplement déduire qui il est. À chaque fois que je rentre dans un nouvel endroit, en effet, si la bibliothèque n'est pas loin, je vais y jeter un œil toujours. Je ne peux pas m'en empêcher, hein, c'est horriblement indiscret.
On peut être regardé de travers d'ailleurs quand on fait ça.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est terrible, mais pour le coup, je vis dans un milieu où il y a des bibliothèques partout. Hein. Et donc, c'est sûr que lorsque j'en vois une, je vais regarder. Je regarde d'abord comment c'est classé. Je regarde si c'est classé par éditeur ou si c'est classé par nom d'auteur, par ordre alphabétique. Celui qui classe par éditeur, à mon avis, privilégiera le côté déco de sa bibliothèque.
Mais surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est rarement classé, en fait.
Alors, en fait, je pense qu'il y a forcément un classement inconscient qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a forcément... Si vous avez, par exemple, les œuvres complètes de Sade illustrées, vous n'allez pas les mettre forcément en évidence, surtout si, je ne sais pas si vous avez des enfants, par exemple. Donc, vous allez les cacher un petit peu, voilà. Vous aurez un petit enfer dans votre bibliothèque où vous mettrez les livres que vous n'avez pas envie que vos enfants trouvent, par exemple. À l'inverse, il y en a sans doute que vous sortirez souvent. Et ceux-là, ils seront pas rangés verticalement, ils seront posés sur la tranche, sur le côté, parce qu'à chaque fois que vous les sortirez, vous en lirez un morceau et puis vous oublierez de les ranger. Il y a aussi des couleurs qui surgissent. Si vous avez des séries de couleurs noires qui arrivent, qu'elle soit en mosaïque ou d'un bloc, c'est sûr que là, vous êtes en face d'un lecteur de polar. Il y a aussi le goût des collections. Je repère tout de suite, par exemple, les vieux volumes de la collection La Grande Histoire de la Science-Fiction qui m'obsédait dans ma jeunesse. Là, si je vois ça, je me sentirais une fraternité avec le propriétaire de la bibliothèque.
C'est les couvertures noires avec des couleurs un peu flashy.
Exactement. Voilà, je vois que vous y étiez.
Il y en avait beaucoup chez Enki Bilal.
Ah, c'est vrai, ça m'étonne pas. Ah, mais c'est une collection remarquable, pleine de monstres.
Dans un instant, on part chez une professionnelle, justement, du classement de livres, la libraire Anne Burzynski. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est livre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire, une libraire, en route pour Vaucresson, chez Anne Burzynski. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Alors, on a trois coups de cœur, trois femmes d'ailleurs. On commence par lequel ?
Alors, on va commencer par Le Parfum des Fleurs la Nuit. C'est le dernier de Leïla Slimani. Alors, je sais que vous en avez beaucoup entendu parler, tous. Mais en même temps, moi, je l'ai vraiment adoré, même avant qu'il paraisse. Hein, je l'avais lu en amont et puis c'était déjà un gros coup de cœur. Donc, Le Parfum des Fleurs la Nuit, c'est dans la collection Ma Nuit au Musée chez Stock. C'est Leïla Slimani qui a été en fait enfermée, entre guillemets, pendant une nuit dans le Punta della Dogana, donc mon accent est misérable, à Venise.
La pointe de la douane.
Je suppose, oui. Je t'avoue que mes rudiments d'italien, c'est pas trop ça. Et donc, elle s'est retrouvée, donc c'est devenu un musée d'art contemporain, et elle s'est retrouvée pendant une nuit enfermée dans ce musée, et donc le principe de cette collection, c'est d'en tirer un livre. Sauf que, étonnamment, ce livre-là, elle parle pas tant d'art que ça. Elle nous explique qu'elle a un espèce de complexe, qu'elle n'est pas forcément très à l'aise avec l'art. Par contre, elle va nous parler beaucoup d'écriture, du processus d'écriture, de la solitude et du voyage. Moi, j'ai souligné énormément de phrases, j'ai passé mon temps à prendre des notes, j'avais envie de lui répondre, etc. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant, quoi.
Tout le monde aime Leïla Slimani. Ouais. Dolores Redondo, elle a aussi une jolie petite carte pour dire que c'est génial dessus, avec un trombone. Et c'est marqué magistral, c'est chez Gallimard dans la série noire.
Ouais, alors Dolores Redondo, moi je l'avais découverte avec Le Gardien Invisible, qui est sa première enquête, qui se passait dans la province du Bastan, donc dans le Pays Basque espagnol. Donc il y avait vraiment cette identité-là. Là, pour le coup, ça se passe à la Nouvelle-Orléans, au moment de Katrina. Et on va suivre en fait l'intrigue, c'est un serial killer qui va s'en prendre qu'aux rescapés de catastrophe, et en l'occurrence aux rescapés de Katrina. En fait, dès qu'ils survivent, bah hop, le serial killer arrive et boum, quoi.
Sacré pervers.
C'est clair, ça, c'est terrible, quoi. L'ascenseur émotionnel. Et ensuite, donc, notre inspectrice un peu phare, c'est Amaya, donc on retrouve dans cette enquête-là, qui est une profileuse, quoi, en gros, qui est une inspectrice de haut vol. Elle a une histoire familiale vraiment particulière qui fait aussi que ce côté psychologique du livre, mais surtout qui fait sa valeur en tant qu'inspectrice. Elle comprend tout parce qu'elle a un passé vraiment traumatique qui l'a marqué. Et c'est un personnage que j'adore, je la trouve touchante, je la trouve réaliste, je trouve que c'est très juste psychologiquement. Et en dehors de ça, c'est une enquête qu'on lâche pas, qui est superbement écrite. Et comme dans ses précédents, Redondo, elle nous met toujours une touche sur le folklore et les légendes locales. Et ça, j'adore parce que c'est du roman policier d'atmosphère, mais où il y a des vraies touches. Il y a des vraies touches de la culture en fait locale, et enfin voilà, je trouve ça génial.
Un petit côté Fred Vargas.
Et d'ailleurs, elle est qualifiée de Fred Vargas, la Fred Vargas espagnole en fait. C'est l'appellation qui lui a été donnée. Ouais, c'est le petit surnom, quoi. Donc ouais, il y a des petites touches.
Et le titre quand même, La face nord du cœur, de Dolores Redondo, chez Gallimard, série noire. Et alors le dernier livre dont vous allez nous parler, c'est aux éditions du Trésor, qu'on adore parce qu'ils font des bijoux à chaque fois, des petits bijoux d'édition, c'est des objets magnifiques aussi.
Et oui, bah justement, moi j'avais effectivement découvert l'auteur et l'éditeur par Femme Pirate, qui est un livre qui était paru précédemment, dont je vous parlerai sûrement à l'occasion avec plaisir. Mais là, je vais vous parler du petit dernier, là, Pionnière du risque. Donc de Marie-Ève Stenuy, et c'est donc paru aux éditions du Trésor. Pionnière du risque, c'est plein de petits récits, de petites anecdotes sur la vie de femmes qui ont réellement existé, qui ont des destins hors du commun. Et alors là, pour le coup, ça va être lié pas mal au ciel, parce que c'est des parachutistes, ça va être des femmes canons, ça va être des femmes qui ont été dans des aérostats, etc., mais qui, dans tous les cas, étaient très pugnaces et très courageuses. Et c'est assez fascinant, et c'est vraiment comme du roman d'aventure, en fait, on le lâche pas, c'est passionnant.
Sur la couverture, il y a effectivement une femme canon.
Ouais, un peu, qui a un côté un petit peu superwoman, mais ouais, c'est ça qui est génial, c'est que tout est vrai, on peut se renseigner, on peut apprendre, mais on le dévore en fait. Et puis, vu que c'est plein de petites anecdotes, ça peut être une lecture fragmentée quand on n'a pas trop le temps. On lit l'histoire d'une de ces femmes et hop, ça fait un bon moment et on y revient, quoi.
On récapitule Leïla Slimani, Le parfum des fleurs, La nuit, Dolores Redondo, c'est La face nord du cœur et Pionnière du risque aux éditions du Trésor. Merci beaucoup, Anne.
Avec plaisir, merci Nicolas.
À bientôt.
À bientôt.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Aujourd'hui, deux albums.
Eh oui,
monstrueux, évidemment.
Bien sûr, un effort avec d'abord l'incroyable catalogue des monstres de Grégoire Cojean et Matteo Dinin. Wow. C'est aux éditions Margaux. Très grand format, c'est un super livre. En fait, c'est l'histoire d'une petite fille qui est fascinée, mais vraiment fascinée par les monstres. Elle décide d'écrire à un naturaliste très célèbre et en réponse, ce naturaliste va tout simplement lui envoyer un catalogue complet de monstres. À l'intérieur, vous allez voir et découvrir des personnages terrifiants. Il y a notamment le Grump, une espèce de personnage qui ne sourit jamais, qui est acariâtre, rabat-joie et aussi mortellement ennuyeux. Du coup, dès que vous l'approchez, vous pouvez carrément mourir d'ennui.
Ah ouais, on dirait une sorte de gros sanglier qui se tient sur deux pattes.
Exactement.
Il est moche.
Alors avec à chaque fois une petite... chaque personnage et chaque monstre est accompagné comme ça d'une petite recette pour essayer de soit de le combattre, soit de le faire rire. Bon, c'est pas le cas de
Il y a Gribouillard aussi.
Ah, Gribouillard, j'aime beaucoup. Gribouillard, c'est un monstre qui a un pouvoir assez exceptionnel. En fait, dès qu'il dessine, la chose qu'il dessine se transforme, enfin prend vie tout simplement. Le problème, c'est qu'il ne sait pas dessiner, donc il fait que des gribouillages un petit peu pourris et qui ont ni forme, avec beaucoup de couleurs. Mais,
et votre préféré, vous m'avez dit, c'est Boulacan.
Ah oui, alors Boulacan, il est terrifiant. Mais alors vraiment, il a une langue terrible, vraiment horrible. Il a cette odeur de vomi. Mais en même temps, son problème à lui, c'est qu'il ne sait jamais faire peur. C'est-à-dire que dès qu'un enfant l'approche, l'enfant va se bidonner. Donc ça le meurtrit beaucoup.
C'est 5 ans celui-là à peu près. Hein. Le deuxième, c'est quoi ?
5 ans. Alors, le deuxième, c'est Gaspard dans la nuit de Sengsun Ratanava. Et alors ça, c'est une histoire vraiment extraordinaire. Vraiment un album que j'aime beaucoup. C'est un petit garçon, Gaspard, 5-6 ans, pareil. Lui, il est tout seul dans son lit tous les soirs. Puis il n'arrive pas à dormir. Ça arrive à beaucoup d'enfants. Sauf que il s'ennuie terriblement, les heures passent, et un jour, il entend une petite voix, juste sous son lit, il se penche, c'est une petite souris, et cette petite souris, en fait, va lui expliquer que tout ce qu'il voit ou tout ce qui lui fait peur la nuit peut prendre vie, et en fait, ces histoires de monstres vont très rapidement se changer en monde féerique. C'est très 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 beau avec des illustrations vraiment magnifiques.
Prix Landerneau, album jeunesse 2021. Donc on a
exactement
dit l'incroyable catalogue des monstres de Grégoire Cojean et Matteo Dinin.
Exactement.
C'est comme ça, c'est aux éditions Margaux.
Oui.
Et Gaspard dans la nuit de Sengsun Ratanavan, c'est aux éditions La Martinière Jeunesse. Merci beaucoup Victor.
Merci Nicolas.
Et vous Alexis Broca, vous avez aussi publié un livre jeunesse qui s'appelle La honte de la galaxie.
En effet.
Vous nous racontez ?
Et il est d'ailleurs plein de monstres. Bah, écoutez, c'est un livre de science-fiction assez gros et je serais bien en peine de vous le résumer, que ça fait 500 pages. Mais bon, c'est un space opéra, ça raconte l'histoire d'une très jeune fille qui a eu un passé guerrier. Elle a combattu pour une vaste entité politique qui s'appelle l'Empire. Et lorsque le roman commence, en fait, elle est en disgrâce et en déshérence sur une planète poubelle. Et un jour, en fait, un convoi passe au-dessus de cette planète. Et ce convoi va visiter une région de l'espace jusqu'ici inatteignable aux humains, mais qui, elle, l'a fait spécialement rêver. Elle l'a fait spécialement rêver parce qu'elle... on sait que dans cette région de l'espace, il se déroule des choses qui s'apparentent à des miracles. Et à partir de là, ça fait 500 pages et je me suis beaucoup amusé à...
Elle est aussi, pour une raison qu'on ignore pour l'instant, la honte de la galaxie.
Elle est la honte de la galaxie. Elle se décrit comme ça, du moins.
Elle a commis quelque chose qui fait qu'elle est devenue la honte de la galaxie.
Elle a fait quelque chose. Bon,
C'est vrai que c'est un gros livre. Ça ne fait pas peur, ça, c'est intéressant. aux jeunes, en fait.
Non, je n'ai pas l'impression.
Aux ados.
Ça leur fait pas du tout peur. C'est marrant, d'ailleurs, parce que autant...
Mais Harry Potter, c'est gigantesque, par exemple.
Alors, c'est vrai, autant en littérature adulte, aujourd'hui, on dit qu'un livre soit gros, c'est un désavantage. Autant, très curieusement, mais moi, ça ne m'étonne pas, les jeunes gens sont beaucoup plus disposés à lire des énormes bouquins, en effet, du moment que ces bouquins ne les flouent pas et du moment qu'on essaie de faire de la vraie narration. Voilà. Et je pense qu'ils ont cette confiance en l'histoire, en l'auteur, etc., que perdent pas mal d'adultes, sans doute, tristement.
La Honte de la Galaxie, c'est aux éditions Sarbacane. Merci beaucoup, Alexis Broca.
Merci, Nicolas.
D'être venu nous parler des monstres, donc, dans Lire, magazine littéraire, le hors-série, en partenariat avec Europe 1. Merci beaucoup, Alexis.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre. Nicolas Carreau.